Alors, je vous ai déjà dit hier, il n'y a pas le décalogue dans le Coran. Il y a une série de commandements éparpillés. Oui, mais il y a toujours donc un accommodement. Par exemple, le Coran demande de ne pas tuer. De ne pas tuer. Tuer, en principe, c'est faire le mal. Qui est valable normalement pour tout le monde, musulman ou non-musulman. Mais il y a des exceptions. Vis-à-vis des non-musulmans, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais il est permis aux musulmans de tuer un autre musulman dans 3 cas. Alors ce n'est pas le Coran qui donne cette permission, ce sont des paroles attribuées à Mahomet. Mahomet aurait dit, il est licite de verser le sang d'un musulman dans 3 cas. Dans 3 cas, on peut donc tuer un musulman. Soit lorsque l'individu est responsable ou coupable de ce qu'on appelle dans l'islam la fornication, c'est l'adultère si vous voulez, ou bien les relations sexuelles hors mariage, soit dans le cadre du talion, œil pour œil, dent pour dent, ou bien pour l'apostat. L'apostat, c'est celui qui quitte l'islam. Là, vous voyez, selon Mahomet, je ne dis pas le Coran, selon Mahomet, il est permis de tuer un autre musulman. Il faut comprendre que ce genre d'acte, ce sont des transgressions qui menacent l'ordre public. Encore une fois, ce n'est pas la conscience elle-même qui dicte les choses. C'est la menace à l'ordre public. Donc, en tuant le coupable, on fait disparaître la faute. Je vous ai parlé de l'importance considérable de la loi. Il y a donc 2 catégories d'actes, selon l'islam, les actes licites et les actes illicites. De très nombreux traités ont été écrits sur la question. Il y a un pointillisme incroyable chez les musulmans de savoir est-ce que ce que je vais faire est permis ou interdit. C'est là que s'est développée la charia. Charia, c'est la loi islamique. C-H-A-R-I-A. En littéralement parlant, le mot charia veut dire voie, V-O-I-E, la voie. Mais, donc c'est la loi qui découle de 2 sources principales, le Coran et la Sunna, la tradition. Je crois que je vous l'ai dit au début, la tradition complète ce qui manque au Coran dans le domaine législatif. Et puis, on a aussi une autre source, c'est la jurisprudence qu'on appelle FIQH, F-I-Q-H. La jurisprudence, c'est le droit appliqué. Mais la jurisprudence ne distingue pas entre le religieux et le profane. Elle s'occupe de tous les aspects de la vie, même les plus intimes. Hier, je vous ai parlé des 4 écoles juridiques. Est-ce que vous voulez leur nom ?
Oui.
Bon, d'accord. Alors, il y a l'école Hanafite, H-A-N-A-F-I-T-E. En général, le nom des écoles se réfère à leur fondateur. Celle-ci a été fondée par Abu, A-B-O-U, Hanifa, H-A-N-I-F-A, en Mésopotamie, au 8e siècle. C'est une doctrine d'esprit assez large qui fait volontiers appel à la raison, ce qui n'est pas si fréquent. Hein? Elle s'applique en Turquie, en Inde et en Chine surtout. Ensuite, il y a l'école Malékite, M-A-L-E accent aigu, K-I-T-E, qui a été fondée par un imam en Arabie, au 8e siècle, c'est l'imam Malik, M-A-L-I-K. Alors, on la trouve en Arabie, mais de façon très atténuée, vous allez voir après, bien qu'elle soit née là-bas. Et puis surtout en Afrique, l'école juridique malékite insiste sur le principe de l'utilité générale des actes. La 3e école, c'est l'école Chaféite, C-H-A-F-E accent aigu I-T-E, fondée par l'imam Shafi, C-H-A-F-I. Lui était en Égypte, il est au 9e siècle. Alors l'école Shafiite, elle propose l'effort pour unir tradition et consensus au sein de la communauté musulmane face aux problèmes qui ne cessent de se poser dans l'histoire humaine. Elle prévaut en Égypte, en Syrie, en Asie du Sud-Est et notamment en Indonésie. Et puis la dernière école, l'école Ambalite, H-A-N-B-A-L-I-T-E, fondé par Ibn, un imam aussi, Ibn Hanbal, I-B-N, Hanbal, H-A-N-B-A-L, au 9e siècle, lui était en Syrie. Alors, cette école s'est imposée en Arabie. Elle préconise un traditionnalisme très strict. Et c'est l'école qui a inspiré l'idéologie officielle du royaume d'Arabie saoudite aujourd'hui, le wahhabisme dont je vous ai parlé hier. Donc celle-ci, elle est vraiment très rigoriste. Et puis dans le chiisme, il y a une école juridique aussi appropriée au chiisme. Alors mon Dieu, le temps passe. Je vous dirai quelques mots ensuite. Je vous laisse poser des questions s'il y a. Hein. Non. Oui. Ben justement, c'est un problème. Le critère de l'acte moral, c'est est-ce que ça sert la cause de l'islam ou pas. C'est ça qui détermine. Et en général, attendez, en général, la loi le dit ça aussi. Mais heureusement, dans le monde musulman, nous rencontrons des musulmans qui ont des êtres qui ont une conscience bien droite, qui sentent, qui écoutent la voix de leur conscience. Ça, et donc je dis heureusement parce que ça leur permet de dépasser la lettre imposée par le Coran et la Sunna, voyez. Mais il y a aussi la possibilité de s'y conformer donc de manière littérale et si ça sert l'islam, eh bien voilà, on peut éventuellement tuer, mentir, voler. C'est le voilà. Oui. Oui.
C'est par rapport à Satan, si tout ce que a créé Dieu a été voulu par lui. En quelque sorte, a été bon, et bon, ben, de s'occuper de sa création. Donc, si Dieu a créé Satan, pourquoi est-ce qu'il est obligé pourquoi est-ce qu'il est demandé de le lapider, de le fuir, etc.
Parce que Dieu donc a créé Satan, mais Satan tente l'homme, et normalement, l'homme ne doit pas se laisser tenter, puisqu'il doit opter pour le bien, normalement. Voyez. Alors, voilà. C'est vrai qu'il y a une chose, mais c'est pas la seule chose qui est ambiguë dans le Coran. Hein. Oui.
C'est par rapport à Uri.
Oui.
Vous dites que c'était assez mystérieux son statut et qu'il y a eu pas mal de théories dessus. Et puis ensuite, vous avez dit que Uri serait une sorte de harem de vierges éternelles.
Oui, on parle des Uri vierges.
Et les Uri, ce sont. C'est des femmes.
Ben.
C'est
pas des esprits, non, c'est quelque chose de physique. Hein. Oui, c'est peut-être des femmes, mais la définition n'est pas vraiment donnée.
Elles sont vierges.
Elles sont vierges et elles restent vierges après l'accouplement avec des hommes.
Donc, du coup, ça correspond bien à ce qu'on entend comme quoi, quand on se parle du paradis, il y aura des vierges.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on on dit aux musulmans pour les pousser, par exemple, à sacrifier leur vie.
Et ça, c'est
les houris, oui, tout à fait. Oui, des houris perpétuellement vierges. Oui.
Et